Ceci est enregistré pour l'Institut national des jeunes aveugles. Le Labi, LU2LABY, par Jean-Marie Le Clésio, LE plus loin CLE accent aigu ZIO, édition Gallimard, collection Folio Junior, première édition 1978, nouvelle édition 1985. Chapitre 1er. Le jour où le Labi, LU2LABY, décida qu'elle n'irait plus en classe, c'était encore très tôt le matin, vers le milieu du mois d'octobre. Elle quitta son lit, elle traversa pieds nus sa chambre et elle écarta un peu les lames des stores pour regarder dehors. Il y avait beaucoup de soleil et en se penchant un peu, elle put voir un morceau de ciel bleu. En bas, sur le trottoir, trois ou quatre pigeons sautillaient, leurs plumes ébouriffées par le vent. Au-dessus des toits des voitures arrêtées, la mer était bleue sombre et il y avait un voilier blanc qui avançait difficilement. Le Labi regarda tout cela et elle se sentit soulagée d'avoir décidé de ne plus aller à l'école. Elle retourna vers le centre de la chambre, elle s'assit devant sa table et sans allumer la lumière, elle commença à écrire une lettre. « Bonjour cher Pa, de P.A. Il fait beau aujourd'hui. Le ciel est comme j'aime, très très bleu. Je voudrais bien que tu sois là pour voir le ciel. La mer aussi est très très bleue. Bientôt ce sera l'hiver. C'est une autre année très longue qui commence. J'espère que tu pourras venir bientôt parce que je ne sais pas si le ciel et la mer vont pouvoir t'attendre longtemps. Ce matin, quand je me suis réveillé, ça fait maintenant plus d'une heure, j'ai cru que j'étais de nouveau à Istanbul, I-S-T-A-M-B-O-U-L. C'est la capitale de la Turquie. Je voudrais bien fermer les yeux et quand je les rouvrirai, ce serait à nouveau comme à Istanbul. Tu te souviens? Tu avais acheté deux bouquets de fleurs, un pour moi et un pour Sœur Laurence. De grandes fleurs blanches qui sentaient fort. Est-ce que c'est pour cela qu'on les appelle des arômes? A-R-O accent circonflexe M-E-S. Elles sentaient si fort qu'on avait dû les mettre dans la salle de bain. Tu avais dit qu'on pouvait boire de l'eau dedans. Et moi, j'étais allé à la salle de bain et j'avais bu longtemps. Et mes fleurs s'étaient toutes abîmées. Tu te souviens? Le Labi s'arrêta d'écrire. Elle mordilla un instant le bout de son bic bleu en regardant la feuille de papier à lettres. Mais elle ne lisait pas. Elle regardait seulement le blanc du papier et elle pensait que peut-être quelque chose allait apparaître, comme des oiseaux dans le ciel ou comme un petit bateau blanc qui passerait lentement. Elle regarda le réveil sur la table. 8h10. C'était un petit réveil matin de voyage, gainé de peau de lézard noir, qu'on avait besoin de remonter que tous les 8 jours. Le Labi écrivit sur la feuille de papier à lettres. « Cher Pa, je voudrais bien que tu viennes reprendre le réveil matin. Tu me l'avais donné avant que je parte de Téhéran. » T-E accent aigu, H-E accent aigu, R-A-N, la capitale de l'Iran. Et maman et sœur Laurence avaient dit qu'il était très beau. Moi aussi je le trouve très beau, mais je crois que maintenant il ne me servira plus. C'est pourquoi je voudrais que tu viennes le prendre. Il te servira à nouveau. Il marche très bien. Il ne fait pas de bruit la nuit. Elle mit la lettre dans une enveloppe par avion. Avant de fermer l'enveloppe, elle chercha quelque chose d'autre à glisser dedans. Mais sur la table, il n'y avait rien que des papiers, des livres et des miettes de biscottes. Alors elle écrivit l'adresse sur l'enveloppe. Monsieur Paul Ferlande, F-E-R-L-A-N-D-E, Procom, PROCOM, 84 avenue Ferdowsi, FERDOWSI, Téhéran, Iran. Elle déposa l'enveloppe sur le bord de la table et elle alla vite à la salle de bain pour se laver les dents et la figure. Elle avait envie de prendre une douche froide, mais elle avait peur que le bruit ne réveille sa mère. Toujours pieds nus, elle retourna à sa chambre. Elle s'habilla à la hâte avec un pullover de laine verte, un pantalon en velours brun et un blouson marron. Puis elle enfila ses chaussettes et ses chaussures montantes à semelles de crêpe. Elle peigna ses cheveux blonds sans même se regarder dans la glace et elle enfourna dans son sac tout ce qu'elle trouva autour d'elle, sur la table et sur la chaise. Rouge à lèvres, mouchoir de papier, crayon à billes, clé, tube d'aspirine. Elle ne savait pas exactement ce dont elle pourra avoir besoin et elle jeta pêle-mêle ce qu'elle voyait dans sa chambre. Un foulard rouge roulé en boule, un vieux porte-photo en moleskine, un canif, un petit chien en porcelaine. Dans l'armoire, elle ouvrit un carton à chaussures et elle prit un paquet de lettres. Dans un autre carton, elle trouva un grand dessin qu'elle plia et mit dans son sac avec les lettres. Dans la poche de son imperméable, elle trouva quelques billets de banque et une poignée de pièces qu'elle fit tomber aussi dans son sac. Au moment de sortir, elle retourna vers la table et elle prit la lettre qu'elle venait d'écrire. Elle ouvrit le tiroir de gauche et elle chercha parmi les objets et les papiers jusqu'à ce qu'elle trouve un petit harmonica sur lequel il y avait écrit « Echo Super Vamper » V-A-M-P-E-R et en travers « Made in Germany » fabriqué en Allemagne et gravé à la pointe d'un couteau « David ». Elle regarda l'harmonica une seconde, puis elle le fit tomber dans le sac, passa la bandoulière sur son épaule droite et sortit. Dehors, le soleil était chaud, le ciel et la mer brillaient. Le Labi chercha des yeux les pigeons, mais ils avaient disparu. Au loin, très près de l'horizon, le voilier blanc bougeait lentement, penché sur la mer. Le Labi sentit son cœur battre très fort. Il s'agitait et faisait du bruit dans sa poitrine. Pourquoi était-il dans cet état-là? Peut-être que c'était toute la lumière du ciel qui l'enivrait. Le Labi s'arrêta contre la balustrade, en serrant très fort ses bras contre sa poitrine. Elle dit même entre ses dents, un peu en colère, « Mais il m'embête, celui-là !» Puis elle se remit en route, en essayant de ne plus faire attention à lui. Les gens allaient travailler. Ils roulaient vite dans leurs autos, le long de l'avenue, dans la direction du centre de la ville. Les vélomoteurs faisaient la course avec des bruits de roulements à billes. Dans les autos neuves, aux vitres fermées, les gens avaient l'air pressés. Quand ils passaient, ils se retournaient un peu pour regarder le Labi. Il y avait même des hommes qui appuyaient à petits coups sur leur klaxon. Mais le Labi ne les regardait pas. Elle aussi, elle marchait vite, le long de l'avenue, sans faire de bruit sur ses semelles de crêpe. Elle allait dans la direction opposée, vers les collines et les rochers. Elle regardait la mer en plissant les yeux parce qu'elle n'avait pas pensé à prendre ses lunettes noires. Le voilier blanc semblait suivre la même route qu'elle avec sa grande voile isocèle gonflée dans le vent. En marchant, le Labi regardait la mer et le ciel bleu, la voile blanche et les rochers du cap et elle était bien contente d'avoir décidé de ne plus aller à l'école. Tout était si beau que c'était comme si l'école n'avait jamais existé. Le vent soufflait dans ses cheveux et les emmêlait. Un vent froid qui piquait ses yeux et rougissait la peau de ses joues et de ses mains. Le Labi pensait que c'était bien de marcher comme cela, au soleil et dans le vent, sans savoir où elle allait. Quand elle sortit de la ville, elle arriva devant le chemin des contrebandiers. Le chemin commençait au milieu d'un bosquet de pins parasols et descendait le long de la côte jusqu'au rocher. Ici, la mer était encore plus belle, intense, tout imprégnée de lumière. Le Labi avançait sur le chemin des contrebandiers et elle vit que la mer était plus forte. Les vagues courtes cognaient contre les rochers, lançaient une contre-lame, se creusaient, revenaient. La jeune fille s'arrêta dans les rochers pour écouter la mer. Elle connaissait bien son bruit. L'eau qui clapote et se déchire, et puis se réunit en faisant exploser l'air. Elle aimait bien cela, mais aujourd'hui, c'était comme si elle l'entendait pour la première fois. Il n'y avait rien d'autre que les rochers blancs, la mer, le vent, le soleil. C'était comme d'être sur un bateau, loin au large, là où vivent les thons et les dauphins. Le Labi ne pensait même plus à l'école. La mer est comme cela. Elle efface ces choses de la terre parce qu'elle est ce qu'il y a de plus important au monde. Le bleu, la lumière, était immense. Le vent, les bruits violents et doux des vagues, et la mer ressemblait à un grand animal en train de remuer sa tête et de fouetter l'air avec sa queue. Alors le Labi était bien. Elle restait assise sur un rocher plat, au bord du chemin des contrebandiers, et elle regardait. Elle voyait l'horizon net, la ligne noire qui sépare la mer du ciel. Elle ne pensait plus du tout aux rues, aux maisons, aux voitures, aux motocyclettes. Elle resta assez longtemps sur son rocher. Puis elle reprit sa marche le long du chemin. Il n'y avait plus de maisons. Les dernières villas étaient derrière elle. Le Labi se retourna pour les regarder et elle trouva qu'elles avaient un drôle d'air avec leurs volets fermés sur leur façade blanche, comme si elles dormaient. Ici, il n'y avait plus de jardin. Entre la rocaille, des plantes grasses bizarres, des boules hérissées de piquants, des raquettes jaunes couvertes de cicatrices, des aloès, des ronces, des lianes. Personne ne vivait ici. Il y avait seulement les lézards qui couraient entre les blocs de rochers et deux ou trois guêpes qui volaient au-dessus des herbes qui sentent le miel. Le soleil brûlait avec force dans le ciel. Les rochers blancs étincelaient et l'écume éblouissait comme la neige. On était heureux ici, comme au bout du monde. On n'attendait plus rien. On n'avait plus besoin de personne. Le Labi regarda le cap qui grandissait devant elle, la falaise cassée à pic sur la mer. Le chemin des contrebandiers arrivait jusqu'à un bunker allemand et il fallait descendre le long d'un boyau étroit sous la terre. Dans le tunnel, l'air froid fit frissonner la jeune fille. L'air était humide et sombre comme à l'intérieur d'une grotte. Les murs de la forteresse sentaient le moisi et l'urine. De l'autre côté du tunnel, on débouchait sur une plateforme de ciment entourée d'un mur bas. Un peu d'herbe poussait dans les fissures du sol. Le Labi ferma les yeux, ébloui par la lumière. Elle était tout à fait en face de la mer et du vent. Tout à coup, sur le mur de la plateforme, elle aperçut les premiers signes. C'était écrit à la craie, en grandes lettres irrégulières qui disaient seulement « Trouvez-moi !» Le Labi regarda un moment autour d'elle, puis elle dit à mi-voix « Oui, mais qui êtes-vous » Une grande sterne, S-T-E-R-N-E, c'est un oiseau de mer, une grande sterne blanche passa au-dessus de la plateforme en glapissant.
« Tia, tia !»
Le Labi haussa les épaules et elle continua sa route. C'était plus difficile à présent, parce que le chemin des contrebandiers avait été détruit, peut-être pendant la dernière guerre par ceux qui avaient construit le bunker. Il fallait escalader et sauter d'un rocher à l'autre, en s'aidant des mains pour ne pas glisser. La côte était de plus en plus escarpée, et tout en bas, le Labi voyait l'eau profonde, couleur d'émeraude, qui cognait contre les rocs. Heureusement, elle savait bien marcher dans les rochers. C'était même ce qu'elle savait le mieux. Il faut calculer très vite du regard, voir les bons passages, les rochers qui font des escaliers ou des tremplins, deviner les chemins qui vous conduisent vers le haut. Il faut éviter les cul-de-sac, les pierres friables, les crevasses, les buissons d'épines. C'était peut-être un travail pour la classe de mathématiques. Étant donné un rocher faisant un angle de 45 degrés, et un autre rocher distant de 2,50 mètres d'une touffe de genêt où passera la tangente. Les rochers blancs ressemblaient à des pupitres, et le Labi imagina la figure sévère de Mademoiselle Lorti, L-O-R-T-I, trônant au-dessus d'un grand rocher en forme de trapèze, le dos tourné à la mer. Mais ce n'était peut-être pas vraiment un problème pour la classe de mathématiques. Ici, il fallait avant tout calculer les centres de gravité. Tracez une ligne perpendiculaire à l'horizontale pour indiquer clairement la direction, disait M. Filippi, F-I-L-I-2-P-I. Il était debout, en équilibre sur un rocher penché, et il souriait avec indulgence. Ses cheveux blancs faisaient une couronne dans la lumière du soleil, et derrière ses lunettes de myope, ses yeux bleus brillaient bizarrement. Le Labi était contente de découvrir que son corps trouvait aussi facilement la solution des problèmes. Elle se penchait en avant, en arrière, elle se balançait sur une jambe, puis elle sautait avec souplesse, et ses pieds atterrissaient exactement au point voulu. « C'est très bien, mademoiselle, » disait la voix de M. Filippi dans son oreille. « La physique est une science de la nature, ne l'oubliez jamais. Continuez comme cela, vous êtes sur la bonne voie. » En effet, elle ne savait pas très bien où cela la conduisait. Pour reprendre son souffle, elle s'arrêta encore et elle regarda la mer. Mais là aussi, il y avait un problème, car il s'agissait de calculer l'angle de réfraction de la lumière du soleil sur la surface de l'eau. « Je n'y arriverai jamais, » pensait-elle. « Voyons, mettez en application les lois de Descartes, D-E-S-C-A-R-T-E-S, » disait la voix de M. Filippi dans son oreille. Le Labi faisait un effort pour se souvenir. « Le rayon réfracté... Reste toujours dans le plan d'incidence, disait le Labi. Filippi. Bien, deuxième loi. Quand l'angle d'incidence croît, l'angle de réfraction croît et le rapport des sinus de ces angles est constant. Constant, disait la voix. Donc, sinus I sur sinus R égale constante. Indice de l'eau sur indice de l'air, 1,33. Loi de Foucault, F-O-U-C-A-U-L-T. Indice d'un milieu par rapport à un autre est égal au rapport de la vitesse du premier milieu sur le second. D'où grand N2 sur grand N1 égale petit V1 sur petit V2. Les rayons du soleil jaillissaient sans cesse de la mer, et l'on passait si vite de l'état de réfraction à l'état de réflexion totale que le Labi n'arrivait pas à faire des calculs. Elle pensa qu'elle écrirait plus tard à M. Filippi pour lui demander. Il faisait bien chaud. La jeune fille chercha un endroit où elle pourrait se baigner. Elle trouva un peu plus loin une minuscule crique où il y avait un embarcadère en ruine. Le Labi descendit jusqu'au bord de l'eau et elle enleva ses habits. L'eau était très transparente, froide. Le Labi plongea sans hésiter et elle sentit l'eau qui serrait les pores de sa peau. Elle nagea un long moment sous l'eau, les yeux ouverts. Puis elle s'assit sur le ciment de l'embarcadère pour se sécher. Maintenant, le soleil était dans son axe vertical et la lumière ne se réverbérait plus. Elle brillait très fort à l'intérieur des gouttelettes accrochés à la peau de son ventre et sur les poils fins de ses cuisses. L'eau glacée lui avait fait du bien. Elle avait lavé les idées dans sa tête et la jeune fille ne pensait plus aux problèmes de tangente ni aux indices absolus des corps. Elle avait envie d'écrire encore une lettre à son père. Elle chercha le bloc de papier par avion dans son sac et elle commença à écrire avec le crayon à billes tout à fait au bas de la page d'abord. Ses mains mouillées laissaient des traces sur la feuille. L-L-B-Y t'embrasse, viens vite me voir où je suis. Puis elle écrivit au beau milieu de la feuille. Peut-être que je fais un peu des bêtises. Il ne faut pas m'en vouloir. J'avais vraiment l'impression d'être dans une prison. Tu ne peux pas savoir. Enfin, si, peut-être que tu sais tout ça, mais toi tu as le courage de rester, pas moi. Imagine tous ces murs partout, tellement de murs que tu ne pourrais pas les compter, avec des fils de fer barbelés, des grillages, des barreaux aux fenêtres. Imagine la cour avec tous ces arbres que je déteste, des marronniers, des tilleuls, des platanes. Les platanes, surtout, sont affreux, ils perdent leur peau, on dirait qu'ils sont malades. Un peu plus haut, elle écrivit. Tu sais, il y a tellement de choses que je voudrais. Il y a tellement, tellement, tellement de choses que je voudrais, je ne sais pas si je pourrais te les dire. Ce sont des choses qui manquent beaucoup ici, les choses que j'aimais bien voir autrefois, l'herbe verte, les fleurs, et les oiseaux, les rivières. Si tu étais là, tu pourrais m'en parler, et je les verrais apparaître autour de toi. Mais au lycée, il n'y a personne qui sache parler de ces choses-là. Les filles sont bêtes à pleurer. Les garçons sont niais. Ils n'aiment que leur moto et leur blouson. Elle remonta tout à fait en haut de la page. Bonjour, cher Pa. Je t'écris sur une toute petite plage. Elle est vraiment si petite que je crois que c'est une plage à une place, avec un embarcadère démoli sur lequel je suis assise. Je viens de prendre un bon bain. La mère voudrait bien manger la petite plage. Elle envoie des coups de langue jusqu'au fond et pas moyen de rester sèche. Il va y avoir beaucoup de taches d'eau de mer sur ma lettre. J'espère que ça te plaira. Je suis toute seule ici, mais je m'amuse bien. Je ne vais plus du tout au lycée maintenant. C'est décidé, terminé. Je n'irai plus jamais, même si on doit me mettre en prison. D'ailleurs, ça ne serait pas pire. Il ne restait plus tellement d'espace libre sur la feuille de papier. Alors le Labi s'amusa à boucher les trous les uns après les autres en écrivant des mots, des bouts de phrases au hasard. La mer est bleue, soleil, envoie orchidée blanche, la cabane en bois, dommage qu'elle ne soit pas là. Écris-moi, il y a un bateau qui passe, où est-ce qu'il va? Je voudrais être sur une grande montagne. Dis-moi comment est la lumière chez toi. Parle-moi des pêcheurs de corail. Comment va Slougi? S-L-O-U-G-H-I. Un chien. Elle ferma les derniers espaces blancs avec des mots. Algues, miroir, loin, luciole, rallye, balancier, coriandre, étoile. Ensuite, elle plia le papier et elle le glissa dans l'enveloppe avec une feuille d'herbe qui sent le miel. Quand elle remonta à travers les rochers, elle vit pour la deuxième fois les signes bizarres écrits à la craie sur les rochers. Il y avait des flèches aussi pour indiquer le chemin à suivre. Sur un grand rocher plat, elle lut « Ne vous découragez pas ». Et un peu plus loin, ça finit peut-être en queue de poisson. Le Labi regarda à nouveau autour d'elle. Mais il n'y avait personne dans les rochers, aussi loin qu'on puisse voir. Alors elle continua sa route. Elle grimpa, elle redescendit, elle sauta par-dessus les fissures, et à la fin elle arriva au bout du cap, là où il y avait un plateau de pierre et la maison grecque. Le Labi s'arrêta, émerveillé. Jamais elle n'avait vu une aussi jolie maison. Elle était construite au milieu des rochers et des plantes grasses, face à la mer, toute carrée et simple, avec une véranda soutenue par 6 colonnes, elle ressemblait à un temple en miniature. Elle était d'un blanc éblouissant, silencieuse, blottie contre la falaise abrupte qui l'abritait du vent et des regards. Le Labi s'approcha lentement de la maison, le cœur battant très fort. Il n'y avait personne, et ça devait faire des années qu'elle était abandonnée parce que les herbes et les lianes avaient envahi la véranda et les volubilis s'étaient entourés autour des colonnes. Charisma, écrit en lettres grecques. Chi, alpha, rho, iota, sigma, mu, alpha. Le Labi lut le nom à voix haute et elle pensait qu'aucune maison n'avait jamais eu un nom aussi beau. Charisma signifie grâce. Une clôture de grillage rouillé entourait la maison. Le Labi longea le grillage pour trouver une entrée. Elle arriva devant un endroit où le grillage était soulevé, et c'est par là qu'elle passa à quatre pattes. Elle n'avait pas peur. Tout était silencieux. Le Labi marcha dans le jardin jusqu'à l'escalier de la véranda, et elle s'arrêta devant la porte de la maison. Après une seconde d'hésitation, elle poussa la porte. L'intérieur de la maison était sombre, et il lui fallut attendre que ses yeux s'habituassent. Alors elle vit une seule pièce aux murs abîmés, dont le sol était jonché de débris, de vieux chiffons et de journaux. L'intérieur de la maison était froid. Les fenêtres n'avaient sans doute pas été ouvertes depuis des années. Le Labi essaya d'ouvrir les volets, mais ils étaient coincés. Quand ses yeux furent tout à fait habitués à la pénombre, le Labi vit qu'elle n'était pas la seule à être entrée ici. Les murs étaient couverts de graffitis et de dessins obscènes. Cela la mit en colère, comme si la maison était vraiment à elle. Avec un chiffon, elle essaya d'effacer les graffitis. Puis elle ressortit sur la véranda et elle tira si fort sur la porte que la poignée se brisa et qu'elle faillit tomber. Mais au dehors, la maison était belle. Le Labi s'assit sur la véranda, le dos appuyé contre une colonne, et elle regarda la mer devant elle. C'était bien comme cela, avec seulement le bruit de l'eau et le vent qui soufflait entre les colonnes blanches. Entre les fûts bien droits, le ciel et la mer semblaient sans limite. On n'était plus sur la terre ici, on n'avait plus de racines. La jeune fille respirait lentement, le dos bien droit et la nuque appuyée contre la colonne tiède, et chaque fois que l'air entrait dans ses poumons, c'était comme si elle s'élevait davantage dans le ciel pur, au-dessus du disque de la mer. L'horizon était un fil mince qui se courbait comme un arc. La lumière envoyait ses rayons rectilignes et on était dans un autre monde, au bord du prisme. Le Labi entendit une voix qui venait dans le vent, qui parlait près de ses oreilles. Ce n'était plus la voix de M. Philippi maintenant, mais une voix très ancienne qui avait traversé le ciel et la mer. La voix douce et un peu grave résonnait autour d'elle, dans la lumière chaude, et répétait son nom d'autrefois, le nom que son père lui avait donné un jour avant qu'elle s'endorme. Ariel. Ariel, A-R-I-E-L. Très doucement d'abord, puis à voix de plus en plus haute, le Labi chantait l'air qu'elle n'avait pas oublié depuis tant d'années. Where the bee sucks, there suck I. In the cow sleeps bell, I lie. There I coach when the owls do cry. On the bat's back, I do fly after summer merrily. Merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. Où l'abeille butine, je butine. Je me couche dans la fleur du coucou. Je gîte là où ulule le hibou. Sur le dos de la chauve-souris, je vole joyeusement après l'été. Joyeusement, joyeusement, je vivrai maintenant sous les rameaux fleuris. Sa voix claire allait dans l'espace libre, la portait au-dessus de la mer. Elle voyait tout, au-delà des côtes brumeuses, au-delà des villes, des montagnes. Elle voyait la route large de la mer, où avancent les rangs des vagues. Elle voyait tout, jusqu'à l'autre rive, la longue bande de terre grise et sombre, où croissent les forêts de cèdres, et plus loin encore, comme un mirage, la cime neigeuse du Kouaïe. Alborz. K-U-2-H-A, trait d'union Y-E, plus loin, A-L-B-O-R-Z. Il ne s'agit pas de l'Elbrouz, sommet du Caucase en URSS, mais de l'Elbourz, chaîne de montagne, très haute aussi, dans le nord de l'Iran et que l'on voit depuis Téhéran, où elle a habité. Le Labi resta longtemps assise contre la colonne, à regarder la mer et à chanter pour elle-même les paroles de la chanson d'Ariel et d'autres chansons que son père avait inventées. Elle resta jusqu'à ce que le soleil fût tout près du fil de l'horizon et que la mer fut devenue violette. Alors elle quitta la maison grecque et elle reprit le chemin des contrebandiers dans la direction de la ville. Quand elle arriva du côté du bunker, elle aperçut un petit garçon qui revenait de la pêche. Il se retourna pour l'attendre. « Bonsoir, » dit Lulabi. « Salut, » dit le petit garçon. Il avait un visage sérieux et ses yeux bleus étaient cachés par des lunettes. Il portait une longue gaule et un sac de pêche et il avait noué ses chaussures autour de son cou pour marcher. Ils firent le chemin ensemble en parlant un peu. Quand ils arrivèrent au bout du chemin, comme il restait encore quelques minutes de jour, ils s'assirent dans les rochers pour regarder la mer. Le petit garçon enfila ses chaussures. Il raconta à Lulabi l'histoire de ses lunettes. Il dit qu'un jour, il y avait quelques années, il avait voulu regarder une éclipse de soleil et que depuis, le soleil était resté marqué dans ses yeux. Pendant ce temps, le soleil se couchait. Ils virent le phare s'allumer, puis les réverbères et les feux de position des avions. L'eau devenait noire. Alors le petit garçon à lunettes se leva le premier. Il ramassa sa gaule et son sac et fit un signe à Lulabi avant de s'en aller. Quand il était déjà un peu loin, Lulabi lui cria « Fais-moi un dessin demain !» Le petit garçon fit oui de la tête. Chapitre 2. Cela faisait plusieurs jours maintenant que Lulabi allait du côté de la maison grecque. Elle aimait bien le moment où, après avoir sauté sur tous ses rochers, bien essoufflée d'avoir couru et grimpé partout, et un peu ivre de vent et de lumière, elle voyait surgir contre la paroi de la falaise la silhouette blanche, mystérieuse, qui ressemblait à un bateau amarré. Il faisait très beau ces jours-là, le ciel et la mer étaient bleus, et l'horizon était si pur qu'on voyait la crête des vagues. Quand Lulabi arrivait devant la maison, elle s'arrêtait, et son cœur battait plus vite et plus fort, et elle sentait une chaleur étrange dans les veines de son corps, parce qu'il y avait sûrement un secret dans cet endroit. Le vent tombait d'un seul coup, et elle sentait toute la lumière du soleil qui l'enveloppait doucement, qui électrisait sa peau et ses cheveux. Elle respirait plus profondément, comme quand on va nager sous l'eau. Lentement, elle faisait le tour du grillage jusqu'à l'ouverture. Elle s'approchait de la maison en regardant les 6 colonnes régulières, blanches de lumière. À haute voix, elle lisait le mot magique écrit dans le plâtre du péristyle, et c'était peut-être à cause de lui qu'il y avait tant de paix et de lumière. Charisma. Le mot rayonnait à l'intérieur de son corps, comme s'il était écrit aussi en elle et qu'il l'attendait. Lulabi s'asseyait sur le sol de la véranda, le dos appuyé contre la dernière colonne de droite, et elle regardait la mer. Le soleil brûlait son visage. Les rayons de lumière sortaient d'elle, par ses doigts, par ses yeux, sa bouche, ses cheveux. Il rejoignait les éclats des rochers et de la mer. Il y avait le silence sur tout. Un silence si grand et si fort que Lulabi avait l'impression qu'elle allait mourir. Très vite, la vie se retirait d'elle et partait, s'en allait, dans le ciel et dans la mer. C'était difficile à comprendre, mais Lulabi était certaine que c'était comme cela, la mort. Son corps restait où il était, dans la position assise, le dos appuyé contre la colonne blanche, tout enveloppé de chaleur et de lumière. Mais les mouvements s'en allaient, se dissolvaient devant elle. Elle ne pouvait pas les retenir. Elle sentait tout ce qui la quittait s'éloigner d'elle à grande vitesse comme des vols des tourneaux, comme des trombes de poussière. C'était tous les mouvements de ses bras et de ses jambes, les tremblements intérieurs, les frissons, les sursauts. Cela partait vite, en avant, lancé dans l'espace vers la lumière et la mer. Mais c'était agréable, et Lulabi ne résistait pas. Elle ne fermait pas les yeux. Les pupilles agrandies, elle regardait droit devant elle, sans ciller, et toujours le même point sur le mince fil de l'horizon, là où il y avait le pli entre le ciel et la mer. La respiration devenait de plus en plus lente, et dans sa poitrine, le cœur espaçait ses coups, lentement, lentement. Il n'y avait presque plus de mouvement, presque plus de vie en elle, seulement son regard qui s'élargissait, qui se mêlait à l'espace comme un faisceau de lumière. Le Labi sentait son corps s'ouvrir très doucement, comme une porte, et elle attendait de rejoindre la mer. Elle savait qu'elle allait voir cela bientôt, alors elle ne pensait à rien, elle ne voulait rien d'autre. Son corps resterait loin en arrière. Il serait pareil aux colonnes blanches et aux murs couverts de plâtre, immobile, silencieux. C'était cela le secret de la maison. C'était l'arrivée vers le haut de la mer, tout à fait au sommet du grand mur bleu, à l'endroit où l'on va enfin voir ce qu'il y a de l'autre côté. Le regard de Lelabi était étendu, il planait sur l'air, la lumière, au-dessus de l'eau. Son corps ne devenait pas froid comme sont les morts dans leur chambre. La lumière continuait à entrer jusqu'au fond des organes, jusqu'à l'intérieur des os, et elle vivait à la même température que l'air, comme les lézards. Lelabi était pareil à un nuage, à un gaz, elle se mélangeait à ce qui l'entourait. Elle était pareille à l'odeur des pins chauffés par le soleil sur les collines, pareille à l'odeur de l'herbe qui sent le miel. Elle était l'embrun des vagues où brille l'arc-en-ciel rapide. Elle était le vent, le souffle froid qui vient de la mer, le souffle chaud comme une haleine qui vient de la terre fermentée au pied des buissons. Elle était le sel qui brille comme le givre sur les vieux rochers, ou bien le sel de la mer, le sel lourd et âcre des ravins sous-marins. Il n'y avait plus une seule Lelabi assise sur la véranda d'une vieille maison pseudo-grecque en ruine. Elles étaient aussi nombreuses que les étincelles de lumière sur les vagues. Lelabi voyait avec tous ses yeux, de toutes parts. Elle voyait des choses qu'elle n'aurait pas pu imaginer autrefois. Des choses très petites, des cachettes d'insectes, des galeries de vers. Elle voyait les feuilles des plantes grasses, les racines. Elle voyait des choses très grandes, l'envers des nuages, les astres derrière l'écran du ciel, les calottes polaires, les immenses vallées et les pics infinis des profondeurs de la mer. Elle voyait tout cela au même instant, et chaque regard durait des mois et des années. Mais elle voyait sans comprendre, parce que c'était les mouvements de son corps, séparés, qui parcouraient l'espace au-devant d'elle. C'était comme si elle pouvait enfin, après la mort, examiner les lois qui forment le monde. C'étaient des lois étranges qui ne ressemblaient pas du tout à celles qui sont écrites dans les livres et qu'on apprenait par cœur à l'école. Il y avait la loi de l'horizon qui attire le corps, une loi très longue et très mince, un seul trait dur qui unissait les deux sphères mobiles du ciel et de la mer. Là-bas, tout naissait, se multipliait en formant des vols de chiffres et de signes qui obscurcissaient le soleil et s'éloignaient vers l'inconnu. Il y avait la loi de la mer, sans commencement ni fin, où se brisaient les rayons de la lumière. Il y avait la loi du ciel, la loi du vent, la loi du soleil. Mais on ne pouvait pas les comprendre parce que leurs signes n'appartenaient pas aux hommes. Plus tard, quand Lelabi se réveillait, elle essayait de se souvenir de ce qu'elle avait vu. Elle aurait bien voulu pouvoir écrire tout cela à M. Filippi, parce que lui, peut-être, aurait compris ce que voulaient dire tous ces chiffres et tous ces signes. Mais elle ne trouvait que des bribes de phrases qu'elle répétait plusieurs fois à voix haute. « Là où on boit la mer, les points d'appui de l'horizon, les roues ou les routes de la mer. » Et elle haussait les épaules parce que cela ne voulait pas dire grand-chose. Ensuite, Lelabi quittait son poste. Elle sortait du jardin de la maison grecque et elle descendait vers la mer. Le vent revenait d'un seul coup, secouait durement ses cheveux et ses habits, comme pour tout remettre en ordre. Le Labi aimait bien ce vent-là. Elle voulait lui donner des choses, parce que le vent a besoin de manger souvent des feuilles, de la poussière, les chapeaux des messieurs ou bien les petites gouttes qu'il arrache à la mer et aux nuages. Le Labi s'asseyait dans un creux de rocher, si près de l'eau que les vagues venaient lécher ses pieds. Le soleil brûlait au-dessus de la mer. Il l'éblouissait en se réverbérant sur les côtés des vagues. Il n'y avait absolument personne d'autre que le soleil, le vent et la mer. Et le Labi prenait dans son sac le paquet de lettres. Elle les tirait une à une en écartant l'élastique et elle lisait quelques mots, quelques formules au hasard. Quelquefois, elle ne comprenait pas et elle relisait à haute voix pour que ce soit plus vrai. Les tissus rouges qui flottent comme des drapeaux. Les narcisses jaunes sur mon bureau, tout près de ma fenêtre. Tu les vois, Ariel ? J'entends ta voix, tu parles dans l'air. Ariel, air d'Ariel. C'est pour toi, pour que tu te souviennes toujours. Le Labi jetait les feuilles de papier dans le vent. Elle partait vite avec un bruit de déchirure. Elle volait un instant au-dessus de la mer, en titubant comme des papillons dans la bourrasque. C'étaient des feuilles de papier avion, un peu bleues. Puis elles disparaissaient d'un seul coup dans la mer. C'était bien de lancer ces feuilles de papier dans le vent, d'éparpiller ces mots, et le Labi regardait le vent les manger avec joie. Fin de la première face de cette cassette unique, Le Labi, par Jean-Marie Le Clésio. Page 43. Laisse la cassette se dérouler jusqu'à la fin avant de la retourner. Merci.